Témoignage. Réaction. Commentaire. C'est la libre antenne BTLV.
OVNI dans l'Hérault, ensorcelé par un collier, poltergeist dans la maison OVNI à La Roche-sur-Yon. Les larmes d'une icône religieuse, soucoupe volante près de Bordeaux, c'est l'affiche de cette nouvelle libre antenne. 90 minutes de témoignages qui vont nous mener aux frontières du mystère et de l'inexpliqué. Comme...
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Comme tous les lundis, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir. Ah non, faut arrêter maintenant, monsieur, de me l'envoyer à chaque fois le jingle. Je suis Bob Bélanca, je suis ravi de vous accueillir. Aucun jugement, aucune censure, mais avec respect et bienveillance. C'est ainsi que je vous propose cette libre antenne du lundi sur BTLV. Vous avez envie de nous partager votre témoignage, 01 86 22 21 20 ou redaction@btlv.fr. Avec moi, fidèle au poste, comme tous les lundis, l'homme des zones paranormales, l'homme qui vous offre sur BTLV tous les mois des dossiers inexpliqués, c'est Jocelyn FKLR. Salut Jocelyn.
Salut Bob.
Ravi de t'accueillir une nouvelle fois. 18 histoires, c'est Zones paranormales, bien sûr. Un bouquin qui est toujours disponible sur btlv.fr. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bouquin que vous allez pouvoir vous procurer. Vous ne l'avez peut-être pas fait durant l'hiver, mais l'été arrive et sur une plage, c'est un sublime bouquin. Il y a le piston entre vous et les réseaux sociaux et le plateau, bien sûr. C'est Valentin Ricand. Salut Valentin.
Salut Bob.
Ravi de t'accueillir. Bien sûr, tu vas nous relater tout ce qui est dit ce soir sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitch ou sur YouTube. On salue également à la régie, non pas Mathis ce soir, mais Thomas. C'est pour ça que parfois, il y a des jingles qui vont être dégainés plus vite qu'on ne l'espère. Mais dans tous les cas, c'est un peu le Lucky Luke de la réalisation. Mais c'est sa première, donc on est indulgents et j'espère que vous le serez aussi. Alors, avant d'ouvrir le bal des témoignages et d'accueillir Roland, je vous propose de regarder ce qui vous attend cette semaine si vous êtes abonné à BTLV. Attention, je le rappelle, BTLV, ce sont des émissions en clair, mais c'est surtout des tonnes d'émissions encryptées sur btlv.fr. Honnêtement, allez faire un tour sur btlv.fr. Si vous aimez ces sujets, vous serez, mais alors, gavé de mystères d'inexpliqués. Regardez après la libre antenne si vous en voulez encore et si vous êtes abonné, le secret de Manéthon d'Égypte. Antoine Gigal, très important Manéthon parce qu'on ne sait pas, on n'a pas la date de son arrivée sur Terre, on n'a pas la date de sa mort. C'est, voilà, entre Ptolémée 1er, Ptolémée 2, on ne sait pas véritablement, mais. Une chose est sûre, il y a des écrits qui sont assez incroyables. On y revient avec Antoine Gigal. Mardi, éveil des consciences clés de notre survie avec David Perroux. J'adore David, c'est un auteur de romans sur la spiritualité. Là, on est sur les dessins d'OVNI. C'est à la fin de la semaine, vous aurez le temps. EMI, une vraie transformation. Ça, c'est mercredi, c'est le live que nous vous proposons. Non, ça, c'est... Je vous dis, hein, à la régie, le mec dégaine. Donc... Mystère EMI, une vraie transformation avec le docteur Jean-Pierre Jourdan, Christian Faure et Francis Fernandez. Ce sera l'occasion de revenir sur ces expériences de mort imminente et pour voir ce que ça a engendré chez les gens qui l'ont vécu. Le docteur Jean-Pierre Jourdan, lui, ça fait 40 ans qu'il travaille dessus. Christian Faure est un auteur qui a consacré 12 ouvrages sur ses expériences. Et puis, Francis Fernandez est une témoin qui a vécu une expérience. Donc, mercredi, non, le temps des ovnis, mais on va y arriver, hein, donc... Le temps des ovnis, c'est, s'il vous plaît. Voilà, Georges Combes et Daniel Robin. J'aurai le plaisir de recevoir Georges et Daniel, qui sont à l'origine du film Le temps des ovnis, qui est actuellement en salle. Jeudi, au-delà, c'est ce que la mort m'a dit. Bravo, on a gagné. Olivier Fuchs, il était temps qu'on y arrive. Thanatopracteur, qui depuis des années est au contact des personnes décédées, puisqu'il est là pour les embaumer. Et lui vit des choses absolument dingues. Vendredi, la revue de presse du mystère et de l'inexpliqué. Et puis, archéo-ufologie, enfin, les dessins d'ovnis avec Patrice Marty. Alors, Globe, il y a un E qui manque. Hein. C'est un blob trotteur.
Blob, hein,
ouais, c'est un blob trotteur, donc voilà. Mais c'est Hamza qui fait
Et à chaque fois,
il y a toujours une petite lettre qui manque, un petit truc en plus. Ben, c'est comme ça, c'est BTLV. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu artisanal. Hein,
c'est un jeu, hein, tu rajoutes les lettres.
Exactement, c'est le jeu des chiffres et des lettres. Donc, on va accueillir sans plus tarder Roland qui est avec nous. Bonsoir Roland.
Bonsoir, bonsoir Bob, bonsoir tout le monde.
Ravi de vous accueillir Roland, vous nous appelez d'où?
Je vous appelle actuellement là, je suis en Normandie, dans un petit village qu'on appelle Fifi.
D'accord, ok, tout se passe bien en Normandie, pas trop froid ?
Ah non, ça va.
Bon, profitez-en parce qu'il paraît qu'à partir de la fin de la semaine, il neige. Alors je vais vous dire une chose, c'est Jocelyn qui m'a remonté le moral aujourd'hui, donc voilà.
Oui, voilà.
Bon, dites-moi, vous avez, vous, une histoire assez singulière avec un collier, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ?
Il y a une histoire qui m'a beaucoup marqué parce que je suis plutôt quelqu'un de... très cohérent, on va dire.
Ouais.
Donc, c'est pas que j'ai du mal à croire à tout ça, mais je pense que quand il n'y a pas de preuves, j'y crois pas. Donc, quand il n'y a pas de ressenti propre. Donc, et là, il m'est arrivé à quelque chose en 2013.
Ouais.
J'étais tombé malade, j'avais eu un objet contondant qui m'avait frappé à... au niveau des yeux.
Ouais.
Du coup, j'ai fait beaucoup d'examens, je me suis fait opérer en janvier 2013. Et quelques mois après, on a reçu la visite de mon oncle, le petit frère à ma mère, qui est arrivé du Cameroun, parce que je suis camerounais d'origine.
Ouais.
Il est arrivé et il a occupé ma chambre.
Mm-hmm.
Et j'étais vraiment en convalescence. Et deux jours après son arrivée, il est arrivé, il m'a trouvé dans la chambre. Parce que je souffrais vraiment.
Ouais.
Il m'a passé un collier en me disant c'est ce que les jeunes ils portent
au Cameroun.
Quoi. Ouais. Voilà. Et là, c'est la tendance, on va dire.
Mmh.
Et je trouvais ça fou parce que, justement, lorsque j'ai eu l'objet contondant qui m'a frappé, j'avais déjà fait deux allers-retours au Cameroun entre le mois de septembre et le mois de décembre.
Mm-hmm.
Donc, je connaissais à peu près la tendance des jeunes là-bas.
Mm-hmm.
Et surtout, enfin, ça, c'est après que je me suis rendu compte, puisqu'il il m'a donné ce collier-là rien que quand il... D'accord. On est tout seul avec lui.
D'accord.
Je veux dire, un truc comme ça, vous donnez à l'enfant devant sa maman, devant la famille, devant tout le monde. Il m'a trouvé tout seul dans la chambre que je cupais, il me l'a passé. Donc je l'ai déposé juste à côté.
Donc pour vous, en tout cas, lui, il vous a dit que ce collier est un ustensile de mode que les jeunes au Cameroun portaient, en fait, c'est ça ?
Voilà, exactement. Voilà.
Il a vous faire un cadeau.
Voilà, un petit truc, je pense que... En termes d'euros, ça ne coûte même pas 5 centimes le truc.
Ouais, d'accord.
Bon, je l'ai pris, je l'ai déposé au chevet. Quelques temps après, je me suis remis sur pied. Donc, j'ai repris le foot, parce que je joue au foot aussi.
Ouais.
Et quand il est parti, quelques semaines après, j'ai récupéré ma chambre. En fait, il est parti, il a pris l'avion. Un samedi, samedi soir. Donc, j'ai récupéré la chambre le dimanche, le temps de ramener toutes mes affaires, le samedi soir, en fait. Et le temps de récupérer mes affaires. Et dans la nuit, je suis couché, en fait. Je suis couché dans la nuit et à un moment donné, je sens comme une présence derrière moi, mais une présence hostile.
Donc, une ambiance pas très sympa, en fait, c'est ça?
Pas très sympa. Je pense que l'esprit le ressent aussi. On le ressent clairement. Je veux me retourner pour voir qui est là, mais cette présence me paralyse complètement. Mais je suis bien conscient, je suis éveillé.
C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous retourner, en fait, c'est ça ?
J'arrive pas à me retourner. Et je me rends compte que cette présence se redresse, cherche à me mettre un truc dans la bouche.
D'accord.
Instinctivement, ma bouche, elle se ferme. Il réussit à forcer cette présence, elle réussit à forcer pour me mettre ce machin dans la bouche. Les dents se bloquent. La mâchoire, elle se bloque complètement. Et il frotte au niveau des dents. Je ne sais pas ce que c'était, mais je sens la personne qui frotte, qui va avec sa main en frottant au niveau des dents.
Donc vous sentez quelque chose de physique dans votre bouche, en fait, c'est ça ?
Physique, mais vraiment physique. C'est-à-dire que, voilà, après cette présence-là, elle s'en va, après ça.
Mmh.
Et là, j'arrive à me retourner.
Ouais.
Et là, quand j'arrive à me retourner, je ne vois personne derrière moi. Et cette nuit-là, je ne dors plus parce que ça s'est passé aux environs de 2h, 3h, 3h30. Donc je me lève avec ça, je n'en parle à personne, je suis estomaqué. Je ne sais pas ce qui m'arrive en fait. Et je crois, le vendredi qui suivait, on fait du vélo avec l'équipe. Petit sport, y en a un qui est en vélo, l'autre qui trottine un peu à pied. Et moi, au moment de prendre le vélo, je me casse la gueule tout seul. Et bizarrement, je frappe la tête et je frappe le visage. Je me casse les dents, en fait. Je me casse vraiment littéralement les dents. Et bizarrement, c'est au niveau où la personne, elle avait frotté, là, enfin l'entité.
D'accord. Donc vous avez frotté. La sensation qu'il y a un rapport entre le fait que vous vous soyez cassé les dents en tombant et le fait qu'on vous ait mis quelque chose dans la bouche à l'endroit même où vos dents ont été cassées, en fait, c'est ça?
C'est exactement où cette personne-là, elle avait frotté. Et à la suite de ça, bon, pendant tout ce temps-là, je me dis, je refuse de porter le collier. C'est-à-dire je me sens pas attiré par ce collier-là, j'ai pas envie de le porter. Mais par contre, ma copine de l'époque, elle aimait bien tout ce qui venait d'Afrique, tout ce qui était exotique et tout ça. Elle portait ça. Et à partir du moment où elle a commencé à porter ça, j'ai commencé à avoir des gros problèmes avec elle. Je voulais pas la voir. C'est vraiment compliqué.
Donc vous mettez ça sur le dos du collier, de toute façon, qui, à partir du moment où il a été sur votre table de nuit, a engendré finalement tous ces problèmes.
Oui.
C'est ça.
C'est-à-dire il y avait le collier et il y avait cette entité-là, puisque le collier même, le collier, je l'ai porté aussi à un moment donné. Je me suis dit, bon, je l'ai porté à un moment donné, peut-être une ou deux fois. Mais avec la suite des événements, j'ai réfléchi. Je me suis dit, il y a un petit souci quand même. Et j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit, elle n'est pas au courant qu'il m'a passé quelque chose. Donc, l'été qui suivait, au mois de juin, je vais au Cameroun. Alors, je vais voir un prêtre, parce qu'un peu à la suite de ça, il y a eu d'autres choses qui sont sorties au niveau de la famille. Donc, je vais voir un prêtre exorciste. Alors, ce prêtre-là, à titre de précision, il est directeur de la congrégation exorciste d'Afrique centrale. En gros, il est nommé directement par le Vatican.
D'accord.
Un grand prêtre exorciste d'Afrique centrale. Donc, je vais le voir, je lui raconte l'histoire. Alors, ce qui m'intrigue, c'est que je fais à peu près une heure et demie de monologue, en fait. Et je crois qu'il dort, en fait. Et quand je finis de raconter, il me reprend tout ce que j'ai dit, en fait.
D'accord, donc vous écoutez bien.
Il est comme dans une espèce de... Bon, comment je peux dire ça? Voilà. Il reprend tout ça et il me dit, ramène-moi le collier, parce que ce jour-là, je n'avais pas ramené le collier. Donc, il me dit, ramène-moi le collier. Je ramène le collier deux jours après. Et quand il le voit, le collier, il dit, oh là là, mais c'est un très, très mauvais truc. Il le prend, il le couvre entre ses mains, il balance des phrases, je ne sais pas. Et puis, il le remet dans le tube dans lequel il était. Et il dit, c'est un très, très mauvais truc. Et ça, ce que tu as rêvé, ce que tu as vu, ce n'était pas un rêve. Ce que tu as vécu, ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Donc il m'explique que, voilà, il y a des gens qui peuvent partir avec leur corps, mais l'esprit reste dans la maison. Et ça, c'est vraiment de la magie ou la sorcellerie, c'est vraiment de la haute sorcellerie, on va dire.
Donc ça veut dire, attendez, je vais essayer de rationaliser pour qu'on avance, parce que ça fait déjà un quart d'heure, il faut qu'on avance quand même, et vous n'êtes pas le seul à vouloir témoigner. Si je comprends bien, ce que vous essayez de nous faire comprendre, c'est qu'il y a un esprit qui est attaché à ce collier, un esprit qui est plutôt maléfique, qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas que vous avez vécu des histoires un peu singulières, qui ont été validées par le prêtre exorciste, en fait, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Voilà. Et ça a duré combien de temps? Une fois, il a fait quoi après le prêtre exorciste? Il a pris le collier, il vous l'a enlevé, il a fait un exorcisme.
Le prêtre, le prêtre exorciste, justement, c'est très très long, mais je sais que le prêtre exorciste avait détruit ce collier.
Ouais.
Enfin, il m'avait dit qu'il devait le détruire.
Ouais.
Et là, justement, avec ça m'a beaucoup marqué. Du coup, je me suis intéressé un peu à ça. Et ça fait en sorte que quand j'ai écouté les témoignages, par exemple, qui passent alors à l'antenne à BTLV, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font des voyages, astral. Et les voyages astro pensent à voir ce que c'est en fait. Parce que ici, en Occident, on appelle ça du voyage astral. Mais en réalité, en Afrique, c'est clairement de la sorcellerie en fait. Et bien sûr, il y a ceux qui le font consciemment et ceux qui le font inconsciemment. Moi, j'ai entendu des témoignages là sur BTLV où des gens disent ah, bah, c'est trop cool de sortir de son corps et tout. Mais attention, parce que si tu sors de ton corps et que tu ne sais pas ce que tu fous là-dehors. Si t'as un esprit maléfique qui te chope en chemin, bah, t'es foutu, en fait.
Oui, en fait, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'on a eu pas mal de gens qui nous disaient aussi, de spécialistes, qui disaient que parfois, quand la personne sortait de son corps, il peut y avoir une entité qui prenait, c'est ce qu'on appelle aussi des doubles personnalités, des gens qui...
Oui.
Voilà, donc c'est vrai que c'est... De toute façon, je vais vous dire une chose, hein. Toutes ces pratiques-là, elles ne sont pas faites normalement, ou quand on les fait, il faut qu'on soit vraiment très, très, très aguerri pour pouvoir les provoquer. La plupart du temps, quand les gens font un voyage astral, ils le provoquent pas. C'est-à-dire qu'ils vivent une expérience. Et ceux qui disent qu'ils le font comme ça, je ne les crois pas. Donc voilà, donc ça, je vais vous dire une chose. Je dis toujours que j'ai du mal à dire que je crois pas. Mais ça ne se provoque pas comme ça. C'est-à-dire que voilà, j'en ai rarement vu qui m'ont dit, tiens, je suis allé à l'épicerie, il n'y a plus de sel. Voilà, voilà. Donc,
excuse-moi, mais je pense que on n'a pas besoin de provoquer ça. On n'a pas besoin de. Je pense que c'est quelque chose qui est en tout le monde en fait. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont plus de la facilité à le faire que d'autres. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'être initiées et pas d'autres. C'est un peu comme vous avez un enfant de bas âge qui commence déjà à vous faire de la mécanique sans avoir été à l'école. Je pense que c'est ça en fait.
Alors juste pour terminer, parce que il y a Jocelyn qui voudrait vous poser une question, et après on est obligé de vous libérer.
Je reviens sur cette histoire de collier parce que on est parti de là. Les relations que vous avez avec votre oncle.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il
vous a ensorcelé en fait.
Ouais, pourquoi il vous aurait ensorcelé?
Alors, dans la famille, je suis fils unique. Mmh. Je suis le seul fils à ma mère. Je suis le premier petit-fils d'une famille. Et depuis très jeune, j'avais été plutôt couvé par mon grand-père. Mmh. Par contre, les relations que j'avais avec ma grand-mère, c'était plutôt tendu. Et en tant que seul fils de ma mère, elle a, on va dire, les moyens. Elle a plutôt réussi sa vie. Je pense que c'est de la méchanceté. Hein. Faut pas chercher. Si vous rencontrez beaucoup d'Africains, ils vont vous dire que voilà, on fait des fois du mal aux gens, des fois par méchanceté.
C'est une sorte de jalousie, voilà. C'est ça?
Oui, on va dire ça. On va dire ça. Mais pourquoi? On ne sait pas en fait. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. C'est assez tendu. Et puis bon, on ne va pas rentrer dans la vie privée, mais
il y
a beaucoup de problèmes au niveau de la famille en fait.
Bon. Écoutez, en tout cas, ça reste personnel. Merci de nous avoir raconté cette histoire. Malheureusement, je vous dis, l'heure tourne et on est déjà un petit peu en retard. Merci de nous avoir raconté cette histoire.
Et puis je voulais te demander, Bob, oui. Est-ce qu'il est possible éventuellement de passer un petit message à Patrice?
Oui. Patrice qui?
Pouillard.
Oui. Bah, envoyez-moi un mail et puis comme ça à bob@btlv.fr et je transmettrai à Patrice, d'accord?
D'accord.
Merci Roland, merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez faire comme Roland, n'hésitez pas. 01 86 22 21 20, c'est Noémie ce soir qui est au standard. Vous pouvez également nous envoyer un petit mail à redaction@btlv.fr sans oublier de laisser vos coordonnées. Vous avez un téléphone, ça tombe bien, vous pouvez nous regarder sur votre téléphone.
Pour avoir accès à BTLV via un Android, il suffit tout simplement d'ouvrir votre navigateur Internet. Vous tapez btlv.fr dans votre barre de recherche. Ensuite, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran. Puis, vous cliquez sur « Ajouter » sur l'écran d'accueil. Enfin, vous cliquez tout simplement sur « Ajouter » et l'onglet BTLV apparaît comme par magie sur votre écran. Il vous suffira de cliquer sur cet onglet pour avoir accès aux émissions radio et télé de btlv.fr.
Voilà, vous pouvez nous regarder. Donc, vous avez tous les tutos hein, sur la homepage de BTLV, que ce soit Android, iPhone et même Chromecast. Je voudrais revenir sur le voyage astral et il y a Narcodro qui dit Nicolas Fraisse lui arrive bien à sortir de son corps. Il ne le fait pas tout le temps parce que ce serait trop facile. Et je peux vous dire qu'on l'a reçu plusieurs fois. Ce n'est pas si simple que ça. Il faut qu'il se mette dans un état particulier et ça ne marche pas à chaque fois. Donc, ce n'est pas une science exacte. Donc, même Nicolas Fraisse ne sort pas de son corps comme on va à la piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas si simple que ça. Ne vous laissez pas non plus embarquer dans tout ce que vous pouvez entendre ici ou là. Ce n'est pas si simple. Et d'ailleurs, Nicolas est un sujet d'étude. Donc, ça veut bien dire qu'un sujet d'étude, bon, on l'étudie. Mais quand vous voyez les résultats, bah, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. On fait un point sur les réseaux sociaux, mon Valentin.
Oui, bien sûr, Bob. Alors, on a d'abord des premières réactions sur Twitch, dont un abonné qui nous dit « C'est un collier ensorcelé par un marabout ». Puis on a un autre abonné qui nous dit « J'adorerais entendre les histoires africaines concernant tout ce qui est sorcellerie ». On en a un autre qui nous dit « L'Afrique, c'est comme la Louisiane, ce sont des terres très spirituelles ». Et puis on a une dernière réaction sur YouTube cette fois. C'est un abonné qui nous dit « La sorcellerie, moi je pense que c'est à partir du moment où on y croit ». Que ça fait, que ça provoque inconsciemment des choses.
Mais attention, ça sert à rien d'aller en Afrique. Hein. Vous allez dans le Berry, il y a des histoires sur la sorcellerie incroyables. On a fait des émissions ici sur des spéciales Berry, et je peux vous dire que. Les agriculteurs, entre eux, se faisaient marabouter, ils s'envoyaient des sorts, hein, c'est ça hein.
Il y a plein d'histoires comme ça
sur Paris
localement.
Aussi,
bien sûr. En ville aussi, Bien sûr, campagne, tu as plein de petites histoires. Dès qu'en fait, il y a une récolte qui foire, c'est forcément la faute, non pas de la météo, mais du voisin qui a jeté un sort. Enfin, remonte à... Pouf.
Et la sorcellerie a toujours existé partout, magie rouge, magie noire, magie blanche.
En France, ça a été bien étudié en tout cas.
Exactement. Dans un instant, c'est Emma que nous allons avoir. Elle a vécu un poltergeist dans la maison, mais avant cela, on va retrouver celle qui tous les mois vous propose Café Conscience, c'est Françoise Nallet.
L'idée de notre rencontre aujourd'hui est d'essayer de vous faire pénétrer, de vous faire plonger à l'intérieur de la conscience. Mémoire cellulaire, 100 000 milliards de cellules qui fonctionnent à l'intérieur de nous, avec évidemment du mouvement, avec de l'énergie. Le propre de l'incarnation, c'est que le maximum d'informations, ce qu'on appelle les pensées magistrales, eh bien, sont incarnées dans le squelette. Tout ce que nous nommons dans notre intériorité, même si cela, nous n'y croyons pas, lorsque nous le pensons, nos cellules disent que c'est vrai. Nous allons utiliser l'expérience du présent pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous. Je vous retrouve le mois prochain dans un nouveau Café Conscience pour une nouvelle exploration de la conscience et de l'univers.
Voilà, Françoise Nallet sur BTLV en exclusivité. Ce que j'aime beaucoup, lorsque nous le pensons, nos cellules disent que c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un peu ce que les gens disent, voilà, tu y penses, en fait, on visualise. Et c'est exactement un peu comme, vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est absolument incroyable. Quand vous, je vais vous dire une chose, je vais être graveleux, mais quand vous pratiquez l'onanisme, voilà, je vais être le plus scientifique possible, eh bien, votre cerveau pense que vous avez fait l'amour à la personne à laquelle vous pensez. C'est ça qui est fou. Et c'est vrai que ce sont des tests qui ont été faits. Et donc, c'est hyper important. Et on en revient sur...
Tu veux dire qu'il y a des gens qui étudient ça ?
Oui, il y a des gens qui étudient ça. Et c'est la pensée positive. En fait, tu te crées un monde positif.
Oui, c'est la pensée positive. Voilà, c'était l'exemple.
Et sur l'onanisme aussi. Et c'est pour ça que, finalement, c'est pour ça qu'on arrive à avoir du plaisir quand on est seul, monsieur. Parce qu'en fait, le cerveau pense que lui, il est... J'ai beaucoup étudié l'onanisme. Et c'est très important. Vous voyez, en plus, j'ai été propre. Hein. T'as vu, j'ai pris des mots, propres.
Tout le monde est en train de se ruer sur Wikipédia. C'est onanisme, c'est dire quoi.
Bon, 01 86 22 21 20, on accueille Emma. Bonsoir, Emma.
Bonsoir, Bob. Bonsoir, toute l'équipe.
Ravi de vous accueillir, Emma. Vous êtes où, quelque part en France, à l'étranger, où est-ce que vous êtes?
Ah, dans une région qui est chère à Egon Kraga, je suis à Toulon, dans le Var.
Oh là là là, il n'y a pas qu'à Egon hein, qu'elle est chère, elle est chère à beaucoup de gens qui rêveraient.
Oui, il est de là. Quoi.
Ah ben oui, je sais qu'il est de là, ben oui, il nous le rappelle suffisamment, il nous l'a rappelé encore mercredi dernier.
Oui. Bon, je sais, j'ai entendu.
Bon, écoute, Emma, vous avez vécu, vous, quelque chose de singulier dans votre maison, c'est ça?
Oui, ça va vous faire rire peut-être des auditeurs. Voilà, c'était en 2015, avec mon ami, mon compagnon, on dormait. On avait le petit chien sur le lit. Puis en pleine nuit, un fracas, un bruit. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, le chien qui aboie, qui part en courant dans la cuisine? On éclaire, et vous allez rigoler, les soreuses à salade valdinguaient par terre.
D'accord.
Donc, tous les morceaux étalés vers le couvercle, le panier, puis l'espèce de bassine. Elle était posée sur un frigo américain, donc c'est assez large.
Ouais.
derrière, enfin, au milieu du frigo, parce que devant, j'avais mis des bouteilles d'apéritifs qu'on faisait maison. Vous savez, ces bouteilles avec des petits bouchons qui font un peu fontaine, donc c'est des bouteilles assez hautes. Et ce frigo était contre un mur et encastré entre le mur et la gazinière. Et sur le côté latéral qui était vers la gazinière, en haut de ce frigo, j'avais des boîtes à spaghettis assez hautes, cylindriques. Ouais. Donc si les sereuses avaient glissé, elle aurait fait tomber dans sa chute, dans la trajectoire, tout ce qui était devant ou sur le côté. Mmh. Or, elle s'est retrouvée en plein milieu de la cuisine, éparpillée, bien sûr, dans aux quatre coins. On est resté scotché, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment ça a pu valdinguer, ça? Et qui a fait ça?
Et pas de courant d'air, rien dans la maison qui était ouvert?
Non, l'hiver, double vitrage fermé. Puis je veux dire, une essoreuse à salade, c'est quand même un peu lourd.
Oui, bien sûr.
Une feuille de papier. Mmh. Voilà, alors c'est tout bête. Je dis, pourquoi s'en prendre à cet objet? Alors je dis, mais qui c'est qui fait ça? Je me suis mis à crier. Je dis, mais qui que vous soyez, ben, ça suffit, on veut dormir, on sait pour aller bosser demain, il faut arrêter.
Mais peut-être que l'entité qui a fait ça n'aimait pas la salade, tout simplement. Et vous a demandé de faire autre chose. Donc.
Vegan, voilà. Ou alors il avait un message, ou il était en colère. Je sais pas. Alors.
Ouais. Et ça s'est passé qu'une fois?
Ça s'est passé, le coup des sereuses, oui, qu'une fois. Il y a eu des déplacements d'objets.
Ah, il y a eu d'autres phénomènes.
Ah oui, il y a des choses qu'on suivit quand même, ça.
Oui. Ben, moi, j'ai vu des entités, voilà, chez des gens aussi.
D'accord.
Peut-être que j'ai une
Donc, vous êtes intuitif. Donc.
Comme dirait Patricia Deray,
voilà, vous avez une capacité, une intuitivité exacerbée qui fait que vous voyez des choses, en fait, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Mais. Ça paraît vite et puis ça reste pas quoi.
Bien sûr.
On n'a pas le temps de saisir un portable, de faire une photo. Je veux dire ça. C'est au moment où vous y attendez le moins quoi, quand vous lâchez prise en fait que ça apparaît. Mmh. Voilà, c'est sûr que si on est dans le mental, on voit que dalle. Je veux dire.
Ça c'est ça.
Mais
c'est
là,
sûr.
Les sereuses, je suis restée. Même mon ami a dit, mais comment ça peut être tombé sans avoir fait tomber ce qu'il y avait devant ni sur le côté quoi.
Mais ça fait peur en plus. C'est-à-dire que si vous êtes en pleine nuit et qu'il y a la sereuse qui tombe toute seule.
Le chien aboyé est parti en courant. Puis peur, non, moi j'avais peur, je suis restée.
Ça, c'est un chien courageux, ça. Le chien, il se barre en courant. Donc voilà.
Ah oui, non, il est barré vers le bruit. Justement, il est allé voir le bruit. Où c'est ce qui nous a montré, c'est dans la cuisine.
D'accord.
Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce bruit en pleine nuit, surtout la nuit, tout résonne. Et puis pourquoi les soreuses à salade?
Je vais être très rationnel, elle n'était pas mal équilibrée au bord de la.
Ah non, elle n'était pas au bord, parce que devant, il y avait des bouteilles, je vous dis, assez hautes. Oui. Donc les bouteilles de vin...
Les bouteilles ne sont pas tombées en plus.
Il n'y a rien qui est tombé, ni les bouteilles qui étaient devant, ni les trucs les pots à spaghetti qui étaient sur les côtés. Elle était au milieu du frigo américain. Et puis c'est large, c'est gros le frigo américain. Mmh. S'il aurait fallu que quelqu'un secoue, et encore, ça aurait fait tomber tout dans la trajectoire. Là, je n'ai pas compris le topo.
Même si tu as un petit séisme nocturne, parce qu'il y a des petits séismes dans le sud de la France.
Mais
les bouteilles seraient tombées aussi, le reste serait tombé, donc ça ne marche pas.
Il était 3h du mat, j'ai regardé l'heure à la pendule murale, 3h du mat.
Alors là, ça veut dire quoi, Emma? Ça veut dire que finalement, pour qu'elle tombe, cette essoreuse, il a fallu que quelqu'un la prenne, elle se soulève, elle part au-dessus des bouteilles et elle tombe au sol, quoi, en fait, c'est ça?
Voilà, qu'elle
contourne les bouteilles.
Quoi, qu'elle soit projetée, en fait, et pas glissée, projetée. Mmh.
Est-ce que je peux vous poser une question personnelle, Emma? Vous habitez où que je vienne pas?
Oui.
Voilà.
Pardon,
vous habitez où que je ne vienne pas, vous voyez ce que je veux dire?
Toulon,
parce que
Toulon.
Voilà, non. Eh ben, j'irai pas à Toulon,
non,
vous voyez. Donc...
On va envoyer Egon.
On va envoyer Egon en éclaireur, voilà. Donc.
Oui, ça sera bien aussi. Non, mais je veux dire, c'est curieux, ça. Voilà. Mmh. Après, l'autre fois, c'était mes lunettes sur le bureau qui sont tombées toutes seules. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce bruit? J'ai pensé à François Démier qui avait vu ses lunettes se matérialiser. Moi, elles sont tombées toutes seules du bureau. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, des lunettes.
Mais est-ce que
vous les avez vues tomber?
Vous les avez vues tomber, oui.
Non, j'étais assise à l'ordinateur, puis j'entends un clac, un bruit. Je me retourne, j'étais seule dans la maison. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, ça, encore? Les lunettes par terre. J'ai dit, comment elles sont tombées du bureau? Enfin, quand elles ne sont pas cassées. Vous voyez, des trucs de ouf. Quoi.
En fait, c'est peut-être un esprit farceur, ce qu'on appelle farceur, qui s'amuse un peu, qui fait... voilà. Mais est-ce que vous avez essayé de comprendre justement qui était derrière ces mouvements? Est-ce que vous avez essayé de faire venir une médium? Ou vous qui êtes intuitive, est-ce que vous avez réussi à identifier?
Non, j'ai posé la question, je me suis concentrée, j'ai dit, bon, écoutez, manifestez-vous, expliquez. Après, le papa qui était décédé de mon compagnon m'est apparu 3 fois. Alors, est-ce que c'est lui qui était en colère? Il n'a pas paru, il n'a rien dit. Si une fois il m'a parlé en télépathie, il a dit tout va bien.
Ouais.
Voilà. Et deux autres fois, je l'ai vu, mais chaque fois habillé différemment, quoi. Mmh. Voilà. Après, c'est vrai, j'ai vu d'autres entités. Mais je veux dire, les Soros, c'est idiot, quoi. Voilà.
Ah, mais non, mais...
J'aurais fait tomber un livre.
Non, mais peut-être, je vous dis, hein, c'est parce que si ça ne fait pas tomber des bouteilles, alors que ça fait un fracas pas possible, et que c'est une Soros, il y a un lien avec la salade. Hein. Je pense qu'il y a un truc, là, l'entité ne devait pas aimer. Donc, voilà.
Après, les Soros, c'est plus tombé. J'ai crié, écoutez, maintenant, ça suffit, les blagues, on va dormir. Et j'ai râlé, et puis j'ai plus les Soros.
Bon, visiblement, vous le prenez bien quand même, ces phénomènes, vous les prenez bien.
Ça, je ne vais pas mourir par terre. J'ai dit, comme je crois au surnaturel, je me dis, tout est dans le champ des possibles. Hein. Tout est possible, voilà. Ouais. Moi, rien ne m'étonne maintenant.
Alors, je vais vous dire une chose. Vous qui êtes dans le surnaturel, je ne sais pas si vous avez Netflix, et j'en profite pour saluer à tous ceux. Netflix. Regardez une série avec Tyler Henry. Je ne connaissais pas ce médium. Je ne sais pas, entre 30 000 et 300 000 personnes qui espèrent avoir une consultation avec lui. Il y a une série actuellement qui s'appelle Life After Death. C'est incroyable.
Oui,
pour la première fois, je vois un médium donner des noms. Pour la première fois, je veux dire, en 10 ans, personne ne m'a dit, il y a René à côté de toi. C'est toujours, est-ce qu'il y a un garçon, il y a une fille, voilà. Là, il donne des noms, il donne des dates, il donne des lieux, il donne des nombres. Et c'est étonnant. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Ma femme, qui n'est pas du tout versée dans ces sujets-là, qui aime plutôt des séries classiques, j'ai réussi à lui faire voir un épisode hier. Elle me dit, c'est quand même troublant. Life After Death, ça vient d'être posté. Et le mec, c'est un tout jeune, un médium, il doit avoir 23 ans. Et dès l'âge de 12 ans, il dit à sa prof qu'il a un message de la mère de la prof qui est mort la veille, alors qu'il ne sait même pas comment elle s'appelle. Il dit, Regina, ou je donne n'importe lequel. Regina me dit que vous inquiétez pas, tout va bien. La prof,
mais
bien sûr,
le jeune qui fait des shows, là, je crois que j'ai vu un truc comme ça.
Alors, je ne connaissais pas, je vous assure, hein, je l'ai découvert là.
C'est un Américain qui fait des shows.
Ah, peut-être. Mais en tout cas, là, il s'appelle, oui, il est Américain, il s'appelle Tyler Henry. Et le mec,
j'ai commencé à le regarder. Il va voir des gens, il est très précis.
Voilà, c'est ça. Ça s'appelle, en français, on vient de me le dire, appel vers l'au-delà, c'est ça? À l'au-delà, avec l'au-delà, appel avec l'au-delà. Donc, écoutez, en tout cas, c'est une série que je vous invite à voir. Merci Emma d'avoir été avec nous.
Merci.
On vous souhaite une belle soirée. On lui a coupé la chic à Emma, donc... Non, mais c'est bien, parce qu'à l'origine, je dis, on a Lucky Luke ce soir, donc c'est l'homme le plus rapide. Il a tellement peur de ne pas envoyer les bons sujets que finalement, il coupe plutôt que prévu. On vous embrasse, Emma. Passez une belle soirée. Et là, il faut envoyer le jingle, par contre.
Témoignage. Réaction. Commentaire. C'est la Libre Antenne BTLV.
On va faire un tour sur les réseaux. Alors, je voulais juste vous dire, parce que je vous sens un peu moins impliqué dans le partage en ce moment. Je regarde les vidéos sur Facebook, vous êtes des centaines, mais il y a 600, 700 commentaires. Partagez BTLV à votre communauté, c'est l'occasion, c'est le seul moyen qu'on ait, bien sûr, de nous faire connaître. Faites découvrir BTLV au plus grand nombre, partagez également sur Twitch, et puis mettez des pouces bleus sur YouTube, commentez également, n'hésitez surtout pas. Enfin, un point justement, Valentin.
Justement, Bob, tu disais de commenter, et bien, il y en a pas mal. D'ailleurs, sur Facebook, un abonné qui nous dit « Oui, j'ai senti des coups et une main hyper glaciale qui m'a attrapé l'épaule en me serrant fortement », parce que oui, j'ai posé la question dans le chat, si des personnes avaient vécu un peu la même chose que Emma. On a aussi sur YouTube, Amaury qui nous dit « J'ai déjà eu des bruits de pas au plafond dans ma chambre, un truc trop flippant ». Et puis on a Vince qui nous dit « Quand j'avais fait la connerie de faire du Ouija, la misère, plus jamais », et ça a l'air de l'avoir marqué.
Alors c'est vrai qu'effectivement, on en parle souvent, hein, Jocelyn, beaucoup disent que la Ouija est dangereuse, il faut faire attention, il faut encadrer tout cela. Je rappelle quand même que c'est un jouet aux États-Unis, hein, c'est-à-dire qu'en fait, Mattel le distribue, il y en a au pied du sapin, je trouve ça dingue. Et alors certains disent au contraire que ça ouvre la porte. Je ne sais pas quoi en penser de ce truc-là. Je sais que j'ai vécu des choses assez étonnantes ici, avec la goutte qui s'est soulevée toute seule, etc. Mais encore une fois, on a une telle énergie, nous. On ne sait pas si ce n'est pas nous qui faisons bouger les choses. Mais c'est vrai que la dernière fois...
C'est l'éternel débat. Hein.
Oui, toujours.
Est-ce que c'est nous autour de la table qui faisons quelque chose, ou il y a quelque chose, on va dire un tiers, entre guillemets, esprit, ce qu'on veut, qui intervient?
Voilà. C'est toujours
le débat, mais c'est pas tranché.
Et lors du tournage du documentaire à Fougeray, hein, en deux parties, qui est à votre disposition sur btlv.fr, on a fait une séance de Ouija avec une des abonnées qui nous avait accompagnés, qui avait gagné la possibilité de venir avec nous pendant ces trois jours. Et effectivement, elle était tombée. Enfin, moi, j'avais été étonné par cette séance parce qu'elle était tombée. Enfin, elle était visiblement en contact avec l'esprit de son frère, qui pendant cette séance lui dit des choses que elle seule connaît. Et nous, on a ce truc. Donc, c'est très particulier.
Moi, je dirais juste qu'il faut être très vigilant quand ça devient très personnel.
Voilà, exactement. Parce que
ça touche à l'intime. Et après, c'est facile aussi de... Bon. On peut tomber dans la manipulation.
Vous ne connaissez peut-être pas BTLV, vous nous découvrez, vous dites tiens, il y a de la lumière, je vais entrer. Ben voilà, vous êtes là, bienvenue, bonsoir, je m'appelle Bob. Et depuis maintenant presque 10 ans, on vous offre BTLV. BTLV, c'est un portail, c'est ce qu'on appelle un pure player. C'est-à-dire que vous allez sur btlv.fr, il y a des tonnes d'émissions sur des tonnes de sujets. La preuve.
Ajouter que l'objet était argenté, il avait une rangée de hublots ou d'ouvertures sur son flanc. Et la lui mentionne aussi une marque rouge en forme de Z à une extrémité.
Je me rappellerai toute ma vie ce petit garçon décédé qui venait dire à sa maman, évidemment pleine de chagrin, que je devais parler de son petit marsupilami qui était son doudou qu'il avait avant de décéder.
À un moment donné de notre histoire, et à plusieurs moments, il y a eu des coups de pouce qui sont liés à des accidents, des mutations, etc. Et peut-être, je dis bien peut-être, intelligent, pourquoi pas.
Vous n'avez pas trouvé votre place, et aujourd'hui, votre premier but, c'est de trouver notre place dans ce monde.
Sa juste place.
La juste place. Nous avons tous une place.
Le pourquoi nous sommes là.
Voilà.
Il m'empoigna et me serra contre lui, en attirant ma tête contre son casque, une sorte de protège-tête métallique, comme en portent les motocyclistes, mais dépourvu de mentonnière.
Quand on est préoccupé par le regard des autres, quand on a peur de ne pas être aimé, c'est en fait que nous ne nous aimons pas suffisamment.
Yeah, I sent to the cathedral, the first one, the first letter, and I sent the orders to authorities to avoid that. It was a criminal actions that happened there.
Et donc moi je dis aux gens, à partir du moment où on est sorti dans la rue parce qu'on a considéré que ces partis politiques n'ont pas su défendre nos convictions, qu'il n'y avait pas véritablement d'opposition, eh bien structurons-nous et faisons-nous nous-mêmes.
Quand on voit ce genre de phénomène, quand on voit une apparition, ou qu'on entend quelque chose, il faut toujours se poser la question en quoi ça me concerne.
Quand vous êtes dedans et que vous vous dites que probablement personne n'est venu là depuis des centaines et des centaines d'années, c'est ce qui s'est passé pour nous aussi, hein. On a découvert des choses, on s'est dit mais c'est dingue quoi. On a l'impression effectivement d'être dans un temple que personne n'a fréquenté depuis très longtemps.
Il nous semble que la franc-maçonnerie, oui, peut être en danger pour la première fois de l'intérieur.
Vous pouvez poser des questions, après on verra si l'animal est d'accord pour y répondre ou pas du tout, si c'est le sujet pour lui ou pas.
Le richalque, c'est le métal le plus emblématique de l'Atlantide.
D'accord.
On le disait en avant-propos, il est caractéristique finalement de ce qu'est l'Atlantide, le mystère finalement avec un grand M.
Tout tout cela sur BTLV et bien plus encore, c'est vrai. Là, je crois que vous avez un bon panorama de ce qu'est BTLV quand même. Vous avez tout en magasin, il y a des collections, tout cela, c'est sur btlv.fr.
Après ça, tu ne t'abonnes pas.
Ah oui, je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, quand on me dit, mais c'est ça BTLV, ben oui, c'est ça, vous avez ça. Et regardez, il y en a pour toutes les bourses. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous êtes étudiant, chômeur, retraité, au SMIC, encore handicapé, vous êtes dans une situation difficile, eh bien, vous pouvez bénéficier de cet abonnement à tarif réduit et bien sûr avoir accès à tout BTLV.
Témoignage. Réaction. Commentaire. C'est la libre antenne BTLV.
Jean Colléa qui va bien dormir ce soir, c'est Thomas à la régie. Je peux vous dire que je le vois jongler. Derrière, on dirait une pieuvre. Il va brûler trois cierges. Ce soir, il dit merci mon Dieu de m'avoir aidé à réaliser cette émission. Mais c'est vrai que c'est pas facile et bravo à lui dans tous les cas. 01 86 22 21 20. On est dans la libre antenne. Vos commentaires, bien sûr, on les attend sur les réseaux sociaux et on attend vos témoignages aussi. 01 86 22 21 20. On a Patrick. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Bob, bonsoir à toute l'équipe.
Ravi de vous accueillir Patrick, vous avez vu un ovni à la Roche-sur-Yon, vous, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Ouais. Alors racontez-moi tout.
Alors écoutez, je suis revenu, là il commence à faire beau, alors je suis sorti sur ma terrasse, ouais. Et j'ai commencé à filmer dans le ciel ce que je voyais. Donc, j'ai envoyé une photo puis une vidéo.
On va regarder justement la vidéo que vous avez filmée. Alors, on va la voir dans quelques instants. Et effectivement, alors c'est un point noir. Hein, je crois qu'en régie, il l'a perdu. Il ne sait plus où il est. Excusez-nous ce soir. C'est un peu... voilà, ça y est, on a la vidéo. Alors, vous allez la voir arriver dans quelques instants chez vous. Je rappelle qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous le voyez, ou en tout cas... Est-ce que vous entendez tout? Et en tout cas, moi, où je parle à la personne qui est au téléphone, est-ce que vous voyez sur vos écrans? Et alors, il y a un point noir qui va très très vite, qui est un point noir que vous avez filmé. Alors, racontez-moi la scène là, parce qu'en fait, on voit c'est quoi? C'est plusieurs photos ou c'est un film ça?
Alors, c'est une caméra, donc c'est un film, et on voit un ovni. Mais le problème, c'est qu'il faut zoomer un peu, parce que sinon, on ne voit pas bien.
Ouais, ouais.
Mais donc, en fin de compte, on voit trois ovnis qui passent à une vitesse rapide. Ouais. Et moi, je fais des ralentis après.
Ouais.
Je fais des ralentis. On voit l'ovni passer à travers le nuage.
Ouais.
Alors, il y a un moment, il monte à droite et l'autre, il descend à gauche. Et tout ça, c'est sur la vidéo.
Non, mais on voit bien évidemment ces points noirs qui vont qui partent de droite et qui accélèrent et qui vont. Alors ça va très très vite. On ne sait pas si ça va tellement vite qu'on a la sensation que c'est une succession d'images en fait de photos. Alors que là, et alors est-ce que c'était à quelle distance? Vous vous souvenez de la distance à peu près?
Vous voyez, il passe à travers le nuage.
Ouais, ouais.
Donc c'est à la hauteur du nuage.
Ouais, mais bon, après, il y a des nuages bas, des nuages hauts.
Moi, je suis à environ à 1 ou 2 kilomètres du
nuage.
Du nuage.
Voilà. Donc,
vous étiez en train de filmer quoi?
Je suis à la chasse d'OVNI.
D'accord.
Donc vous étiez en train de filmer en plan fixe le ciel, comme ça, en attendant qu'il se passe quelque chose. D'accord.
D'accord. Et c'est vous avez bien remarqué que ça pouvait pas être un insecte, quelque chose, parce que...
La hauteur des nuages, l'insecte...
Ah non, ça peut être à la hauteur de votre objectif, hein. C'est pas pareil, ouais, c'est con.
Ça semble lointain.
En même temps, ça passe dans les nuages, c'est vrai que c'est un peu bizarre.
Moi, je penserais plus à un oiseau qu'à un insecte. Voilà. Un oiseau plus lointain.
Aussi vite, voilà. Sans bouger et qui passe à travers le nuage, franchement, très fort.
Ça a duré combien de temps à peu près? Parce que là, la vidéo, elle dure 1 minute 30, mais est-ce que j'imagine que vous avez fait un petit montage là.
C'est en temps réel.
C'est en temps réel là?
Oui, c'est en temps réel.
Et alors, quand vous étiez en train de filmer, est-ce que vous l'avez vu ou c'est quand vous avez regardé les images par la suite que vous êtes aperçu qu'il y avait
ça? Je l'ai vu, j'étais sur ma terrasse. Et ça, tout de suite, ça m'a tapé dans l'œil.
Alors, il y a Denis qui dit « Mais Bob, un film, c'est une succession d'images. » Merci, je fais de la télé depuis 35 ans, je vais comprendre. C'est juste une succession de photos. Je ne peux rien dire. Hein. C'est-à-dire que le moindre truc, on m'a... À la gorge, à la jugulaire. C'est Romulus, tu sais. Voilà, c'est juste absolument incroyable. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça dure 1 minute 30 et pas de bruit, rien, et ça, ça a disparu.
Oui, oui, ça a disparu comme prévu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un. C'est passé en 2 minutes et après, il n'y avait plus rien, quoi.
Ça a été furtif, quoi. Et alors, est-ce que par rapport au nuage...
2 minutes, c'est pas furtif.
Non, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va super vite, ce qui est hallucinant. Enfin, 2 minutes, c'est ce que je trouve... ce qui serait intéressant de voir, c'est par rapport au nuage, parce qu'il y a un petit truc noir là, qui passe devant le nuage, est-ce que le nuage était important? Ça vous permettrait peut-être de voir de la taille de l'engin ou de ce que c'est?
Oui, le nuage était, oui, relativement important. Je dirais, ce nuage-là, il devait représenter, un petit village.
D'accord. Donc, en fait, c'est un nuage important. Donc, l'objet qui passe devant, parce qu'on le voit bien, il doit être aussi important. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il devait être assez imposant.
Oui.
D'accord. Tout à fait. Et alors, quel type de caméra vous utilisez pour filmer ce... Est-ce que c'est un appareil photo qui fait...
Oui, c'est un appareil à photo. Ouais.
Ouais, c'est quand même.
C'est un Sony.
D'accord.
Un Sony,
ok. Non, mais on voit qu'il y a une belle qualité en plus là, donc parce que filmer
un Sony automatique.
La définition. Alors, le problème, c'est que quand plus on zoome, plus ça pixelise et c'est un peu
ça devient
compliqué.
Voilà.
Mais effectivement. Voilà. Mais...
C'est-à-dire que plus on zoome dessus.
Bah ouais.
Moins on se rend compte que c'est.
C'est le problème, c'est pour ça que c'est toujours marrant quand je vois les gens disent « Ouais, en 2022, avec les qualités de caméra, mais vous savez, plus vous zoomez dans une image, plus ça pixelise. Hein, » Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ou alors, il faut aller téléobjectif, je vous dis même pas. Donc, bah, écoutez, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, c'était... Est-ce que vous vous rappelez la date exacte ou pas?
La date est marquée sur la photo.
Ah ouais, elle est sur la photo.
C'était... Parce que là, moi, j'ai septembre 2021. Donc, bah, écoutez, si vous étiez du côté de la Roche-sur-Yon...
La photo que je vous ai envoyée, ouais. Elle est de cette année. Hein.
D'accord.
Elle est de, il y a un mois.
Ah oui. Donc la 12-4, 12-4, le 4 décembre, en fait, c'est ça? Le 4 décembre, ouais. 2021 à 14h03.
Non, la photo, c'est 2022. Hein.
Non, parce que moi, j'ai une date, là, 2021, qui s'affiche.
Et
donc,
ça, c'est la vidéo.
D'accord. OK. Et la photo, c'est 2022.
La photo, c'est 2022. De ce mois-ci.
Ok.
Mois de mars ou avril.
Bon, bah écoutez, en tout cas, on n'a pas la photo en régie, c'est pas très très grave. Dans tous les cas, je fais un appel à témoins. Si là encore, que ce soit en avril 2021 ou là, si vous avez vécu quelque chose de similaire du côté de la Roche-sur-Yon, faites-nous en part à redaction@btlv.fr ou alors au standard 01 86 22 21 20. Merci infiniment, Patrick, d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir.
On vous souhaite une belle soirée.
Témoignage, réaction, commentaire. C'est la Libre Antenne BTLV.
La Libre Antenne, c'est tous les lundis en direct sur tous les réseaux sociaux. Bien sûr, après, c'est à votre disposition. Vous pouvez la regarder. Je vois beaucoup de gens qui arrivent à la fin de la Libre Antenne en fonction de ce qu'ils font et qui la regardent en replay. Donc, c'est à votre disposition et c'est gratuit. Et c'est parce que c'est gratuit qu'on vous demande de l'aide. Aidez-nous à faire connaître BTLV au plus grand nombre. On a besoin de vous. Sinon, ça va être compliqué. À venir, Hélène, on va parler d'une icône religieuse qui pleure toute seule. On parlera également d'une soucoupe volante, mais aussi d'un ovni observé entre 2012 et 2013 dans l'Hérault à Montbazin. Mais pour l'heure, on fait un tour sur les réseaux, Valentin.
Oui, alors tout d'abord, sur Facebook, on a un abonné qui nous dit « L'OVNI qu'il a vu, c'est le même que j'ai vu dans les Hautes-Alpes en 2019. »
Dans les Hautes-Alpes?
Les Hautes.
Toi, tu fais des liaisons dangereuses.
Ah, mais j'invente, c'est pas bon.
Il y a un H, donc les Hautes.
Les Hautes-Alpes.
La dernière fois, il m'a fait « C'est trop éloigné ». Là, j'ai pleuré, là. C'est-à-dire que mon prof de français de l'époque, il s'est arraché les oreilles, il s'est crevé les tympans.
Et puis, on a sur YouTube un abonné qui nous dit « Ça se déplace pas droit, c'est ressemblant à une trajectoire de volatile. »
Oui, mais on ne sait pas. En tout cas, mais même lui ne sait pas. Donc,
non, c'est difficile. Voilà, la seule chose, à mon avis, qu'on peut dire, c'est que c'est loin de l'objectif. Ça a l'air loin de l'objectif.
Oui, j'aurais pu imaginer que ça pouvait être un insecte, mais effectivement, ça passe à travers le nuage. Donc, effectivement, c'est pas ça.
Donc, il y a plein de choses qui peuvent passer à travers un nuage.
Ouais, mais un insecte si loin.
Non. Ah non, pas un insecte.
Pas être un insecte, mais
je pense que c'est plus loin.
Mais ça va être c'est parce que si il nous dit que le nuage est gros comme un village, c'est-à-dire que c'est un gros truc quand même qui passe. Donc voilà. Autre chose.
C'est à peu près tout ce qui se passe.
Ok, merci à vous d'être avec nous. On continue dans un instant avec Hélène, mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que sur BTLV, vous avez pléthore de films à votre disposition également. Il n'y a pas que Netflix, il n'y a pas que Prime Video, il y a btlv.fr.
BTLV, c'est aussi des documentaires en vidéo à la demande.
Le drame de l'être humain au XXe siècle, c'est qu'il s'est amputé de son âme.
Nous avons un don extraordinaire, c'est celui de pouvoir nous transformer.
Ça m'a permis de donner du sens à ma vie.
Dès qu'on arrive ici, tout s'ouvre.
C'est sûr. Hein.
Nicolas Flamel, ça serait l'ouvrage qu'il a écrit.
Alors, en tant qu'alchimiste, il aurait trouvé la pierre d'immortalité, ce que prouve ce livre, parce qu'il est sorti 200 ans après sa mort.
On va associer du savoir-faire, de la technique avec de la magie. Et à la fin, on aura comment faire la pierre philosophale.
Rarement un ouvrage aura suscité tant de polémiques et de passions que le Da Vinci Code.
Béranger Saunière est un voisin, il vient occuper un poste de prêtre, point.
Il a vu dans un vieux balustre en bois une petite fiole qui contenait un document.
Ce trésor pourrait donner un certain nombre d'éclairages sur les évangiles et sur la vie du Christ.
C'est fascinant. L'humanité n'en est qu'à l'âge de pierre. Elle ne sait pas fabriquer de poterie rudimentaire et pourtant, elle détient, Dieu ne sait comment, une technologie suffisamment avancée pour tailler, transporter et dresser des blocs de granit de 16 tonnes. D'après les Sumériens, les dieux extraterrestres auraient façonné l'homme primitif à leur image. Notre processus évolutif ne pourrait-il résulter d'une manipulation de notre génome ?
Et les missions Apollo ? Furent-elles réelles ? On voit des reflets de lumière juste au-dessus de la tête des astronautes. Il y a un deuxième reflet, qui ne peut pas être attribué à l'antenne et qui semble être justement celui d'un câble. Nous avons montré cette même photo aux photographes professionnels.
Ici, il y a un problème de direction de l'ombre.
Ces photos sont fausses, non ?
Si le château de Faugeray est connu pour les phénomènes paranormaux qui s'y passent, peu de gens en connaissent l'histoire et peu veulent y dormir seul dans une chambre.
Quand t'arrives, tu ressens des choses qui sont inhabituelles, qui te surprennent.
Ça, c'est formidable.
On a la sensation que Faugeray serait un lieu de convergence pour que des entités viennent en fait communiquer. C'est ce qui s'est passé avec lui.
Faugeray est décidément un lieu à part, fascinant, déroutant parfois, laissant souvent songeur, mais jamais indifférent.
Spiritualité, lieux hantés, archéologie mystérieuse, recherche scientifique, âme et conscience. Tous les films et documentaires en VOD sont à retrouver sur btlv.fr ou via le lien dans le chat.
Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez y avoir accès, bien sûr, hein, où que vous soyez, btlv.fr, 01 86 22 21 20. On a Hélène qui est avec nous. Bonsoir, Hélène.
Oui, bonsoir, Bob. Bonsoir, tout le monde.
Vous savez qu'un jour, j'étais seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau, Hélène, vous savez.
Oui, bah, oui, tout à fait. Ouais.
Dites-moi, Hélène, vous nous appelez d'où ?
Alors, moi, je suis de la région toulousaine.
Ah, magnifique, comme moi, alors.
Voilà, près de Toulouse. Et voilà, je voulais parler d'une icône que j'avais vue pleurer, mais c'était à la fin des années 80.
D'accord, racontez-moi tout.
Alors voilà, donc à la fin des années 80, j'étais jeune, donc j'étais avec ma mère à Toulouse parce qu'on avait entendu parler d'une icône donc, qui pleurait.
Ouais.
Donc, nous nous sommes rendus à Toulouse, donc chez une personne. Bon, je vais pas citer je peux citer le nom, je ne sais pas si je dois le citer ou pas.
Bah, allez-y.
Bon, alors, cette personne s'appelait Monsieur Dessos. Mm-hmm. Il nous a reçus très chaleureusement. Et quand je suis rentrée dans la salle, en fait, déjà où il y avait l'icône, il y avait plusieurs personnes, dont un franciscain qui était à genoux en prière. Et cette icône était en fait dans une salle qui était remplie elle-même d'autres représentations religieuses en fait de la Vierge et de l'Enfant,
ouais.
De tradition byzantine. Voilà. Mmh. Bon. Alors bon, ma mère est très croyante, moi je suis aussi croyante mais pas pratiquante, mais bon toujours très curieuse. Mmh. Donc ce monsieur Dessos en fait nous a invités ensuite à nous rapprocher de l'icône pour la voir. Et là, j'ai pu constater qu'il y avait plein de coton qui était disposé sous l'icône pour recueillir en fait l'huile qui suintait et qui goûtait de la représentation.
Alors c'est ça que je voulais vous poser justement comme question. Oui. Qu'est-ce qui coulait ? C'était de l'huile, hein, c'est ça hein ?
Alors oui, c'était de l'huile, oui. Alors donc j'ai pris des cotons évidemment. Bon, c'était une huile. J'étais frappée par son odeur. Ça sent, je sais pas, j'ai pas trop pu identifier peut-être un petit peu la. Ça sentait la rose en fait.
D'accord, ok.
Mais une odeur, c'était pas vraiment la rose, mais c'était une odeur que je connaissais pas, mais une odeur très très subtile.
D'accord.
Et donc c'était une huile, mais
parfumée. Donc voilà, donc de toute
voilà,
façon
très
c'était...
parfumée. Très finement parfumée et elle était ce qu'il y avait comme caractéristique un peu, alors, je sais pas si c'était étrange ou pas, mais quand on mettait cette huile sur la peau, ça laissait pas de film gras en fait. C'était c'est comme s'il y avait rien en fait après.
D'accord. Ouais. Alors qui a étudié cette icône ? Parce que j'imagine que quand on est
beaucoup de gens.
Beaucoup de gens ? Ah c'est ça ? Ouais. Donc t'as les infos l'icône, toi, c'est ça ? Ouais. Donc parce que effectivement quand on, alors ça arrive hein, dans le monde entier, il y a des icônes bien sûr qui suintent des larmes d'huile. Alors c'est souvent ça. Alors il y avait une série, je me souviens sur Arte, où une icône pleurait des larmes de sang, mais des litres et des litres. Et des litres. C'est vrai que c'est souvent soit de l'huile, soit du sang. Mais là, j'imagine que dans la région, tout le monde avait été alerté, Hélène, c'est ça ?
Ben, moi, j'étais étonnée parce que ça n'intéressait pas plus que ça les gens. Enfin, du moins, dans le petit village où j'étais, près de Toulouse, même c'était la bigote du village qui nous avait dit d'y aller. Et elle-même, elle nous disait que c'était des bêtises, tout ça. Donc, ouais. Elle n'y croyait pas, pourtant, elle était très catho.
Ouais.
Bon, il y avait du monde, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et ensuite, cette icône, en fait, on a appris par la voisine toujours qu'elle avait été prise par un labo pour être analysée et que là, elle avait cessé de pleurer. Bon, plusieurs semaines après qu'elle était pour être analysée au labo. Alors, ensuite, bon, on n'a pas eu de nouvelles. Moi, j'ai par la suite essayé de voir des articles dans la Dépêche. La Dépêche, c'est la...
Oui, la Dépêche du Midi, ouais, c'est le journal voilà, local. Ouais.
Mais j'ai rien trouvé. Donc, je voulais savoir si peut-être ce soir, il y avait des personnes...
C'était en quelle année exactement ?
Alors, c'était en 1988, parce que ce monsieur de Sauce, donc c'était quelqu'un de très, très pieux, hein, qui ne nous a pas du tout conseillé en plus le fait de prendre le coton. Ce monsieur, en fait, nous a dit que pour lui, enfin, c'était pas pour lui, il nous a dit de façon catégorique que, en fait, c'était un lien avec la guerre au Liban à l'époque, en 1988, qui était très meurtrière.
Ah oui, donc, en fait, la Vierge pleurait tous les drames vécus là-bas, quoi, en fait,
voilà.
C'est ça.
Okay. Et oui.
Alors, je vais me tourner vers le spécialiste, parce que, oui. Jocelyn, toi, tu
connais un peu... Non, mais l'histoire me disait quelque chose, parce que Yves Lignon en avait parlé.
Oui.
Et en fait, alors vous avez connu l'icône en 1988 dans ce petit village,
oui.
Mais après, je crois que ce monsieur, dont j'ai déjà oublié le nom, pardon.
De Sauge.
De Sauge.
Ouais. Il était à Toulouse, hein.
Voilà. Il est pas loin, dans le quartier de Salins, c'est ça ?
Oui, d'accord, donc
c'est bien lui, du Salin.
Exactement,
voilà, c'est ça. Ouais. Et là, quand il était à Toulouse, effectivement, il y a eu... alors, ça a duré plusieurs années. Il y avait de l'huile odorante qui, effectivement, sointait de l'icône. C'est une icône orthodoxe, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Et bon, après, ça a été étudié par plein de gens. Il y a... alors, c'est vrai que Yves Lignon, qui à l'époque habite à Toulouse, en plus, est spécialiste un peu de tous ces sujets-là, a fait sa petite enquête. Il a été avec un magicien aussi, ils ont essayé de voir un petit peu. Et en fait, eux, ils ont réussi subrepticement à analyser cette huile. Ils ont trouvé que c'était de l'huile de table. Hein. Donc,
De l'huile de table.
Oui, de l'huile classique que vous utilisez pour faire la cuisine. Ouais,
mais ça veut dire qu'il y a...
Genre, si c'est ça m'étonne un peu, parce que moi-même, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas une supercherie, s'il n'y avait pas un mécanisme et tout derrière. Ensuite, j'ai fait une petite expérience moi-même, mais bon, j'avais pris deux cachets d'aspirine, en fait, j'avais mis dans le vide, j'avais mis de l'huile d'olive dans un tube, et dans l'autre, j'avais mis cette huile parfumée, et bon, quelques années après, alors que l'huile d'olive était rince et était desséchée, l'huile, en fait, parfumée, et n'avait pas perdu son odeur ni sa texture. Alors
d'accord.
Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, mais,
non, mais après ce monsieur de Sauce, là, il faisait quoi dans la vie, lui ?
Eh bien, moi, je ne sais pas trop, j'étais jeune. Ouais. En tout cas, je sais qu'il était très pieux, puisque sa salle était remplie d'icônes. Donc,
d'accord.
Je ne sais pas ce qu'il faisait.
Parce que si on fait une supercherie, c'est-à-dire qu'il faut un mécanisme, c'est-à-dire qu'il faut quand même... Oui. J'imagine que Yves Lignon... Ouais. A dû aussi soulever l'icône, il a dû regarder.
Pas tous les détails de l'affaire, mais d'après ce que les conclusions qu'il avait, il était possible quand même de manipuler un peu et de faire suinter pendant une certaine durée, etc. Cette icône et d'accord. Après récolter. Bon, après voilà. Bon. Les conclusions, en tout cas, enfin, on va dire, les conclusions n'étaient pas concluantes.
Et alors vous, qu'est-ce que vous avez ressenti face à cette icône? Parce qu'en fait, finalement, le plus grand intérêt, c'est ça, c'est la foi. Alors, je ne sais pas si vous aviez la foi à l'époque, mais c'est juste ça. C'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes face à un phénomène comme celui-ci? Est-ce que ça vous emplit de joie? Est-ce que ça vous étonne? Vous étiez dans quelle situation psychologique à ce moment-là?
Moi, j'étais très déjà curieuse d'y aller. Ensuite, j'ai adoré cette odeur et je me suis dit que ça... Je doute toujours beaucoup, mais...
Mais le doute est essentiel, hein, Hélène, hein, il faut. Hein.
Mais bien sûr, Bob. Ouais. Donc, pour moi, ça n'avait pas l'air d'être une supercherie parce que je me souviens, j'avais fait le tour là, d'une espèce de petit retable où était posée l'icône. Ouais. Et cette odeur particulière, moi, ça m'avait ému.
D'accord.
Je me disais, c'était une odeur mystique pour moi.
Oui, puis voilà, de toute façon, regardez quand même 1988, ça fait une paire d'années, et vous vous en souvenez encore, c'est un événement qui vous a marqué. Et donc, c'est bien, et dans tous les cas, ça vous a marqué dans le bon sens. Est-ce que vous aviez, parce que moi, je n'ai jamais vécu ce type d'événement, mais je serais face à ça, je me dirais, tiens, je suis en train de vivre quelque chose quand même d'exceptionnel, de surnaturel, ou de religieux, ou de spirituel. Je serais un peu... perturbé, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça. Vous êtes ressorti, moi ce que j'ai envie de savoir, c'est votre sensation. Ok, vous sentez l'odeur, mais est-ce que vous avez pris la mesure de quelque chose de spirituel, de grand, de divin, par exemple, vous voyez?
Oui. Alors, comme je vous dis, j'ai toujours un doute, même si je suis vraiment, je suis passionnée de tous les phénomènes inexpliqués, mais j'ai toujours besoin de beaucoup, beaucoup de preuves.
Ah bah oui.
Mais par contre, oui, moi, ça m'a... Déjà, l'idée d'y aller, ça m'a fortement enthousiasmée. Mmh. Et j'ai été très heureuse de vivre ça. Oui, non. C'est... Après, je vous dis, je suis toujours dans le doute. Donc,
Bah écoute, en tout cas, vous avez raison d'être dans le doute, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il y a des icônes qui pleurent.
Non, il y a beaucoup d'icônes. Alors soit c'est effectivement de l'huile qui suinte, on peut avoir le fameux sang de San Gennaro à Naples qui se liquéfie, je crois que c'est tous les ans au mois de janvier, on ne sait pas vraiment trop pourquoi. Et il paraît que quand il ne se liquéfie pas, il va arriver quelque chose de grave dans la ville. Voilà.
D'accord.
Mais après, bon, on n'y croit pas.
Non, mais...
Là,
pour le coup, on a des éléments tangibles. On a de l'huile, du sang. On peut analyser ça, quand même.
On peut, mais après, le monsieur qui détient l'icône n'a pas forcément envie. Enfin, on est aussi dans la croyance. Donc, l'irruption de la science pure et dure là-dedans, est toujours... c'est pas facile. C'est pas facile d'arriver avec ces grandes certitudes et de dire, on va prendre tout ça, on va analyser tout ça dans un laboratoire et voir ce qui se passe. Quoi.
En tout cas, je pense que le laboratoire n'a pas dit que c'était une supercherie. Enfin, je pense pas.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un laboratoire. Enfin, est-ce que déjà, il y a un laboratoire, on va dire, très sérieux qui a analysé cette icône? Je ne pense pas, non.
Bon, cette huile, enfin, excusez-moi, je rajoute juste un fait. L'huile n'était pas grasse. C'était pas de l'huile d'olive. Enfin, moi, ça ne me semblait pas être une huile d'olive comme ça, lourde et épaisse. Non. C'était très particulier.
En tout cas, elle était parfumée, ça c'est vrai.
Tout
le monde l'a dit, c'est un mélange de rose et de jasmin.
Bon, écoutez, en tout cas, le mystère reste entier. Ouais. Moi, ça fait partie de ces choses qui me laissent pantois et qui font que je cherche toujours parce qu'on n'a pas d'explication. Et encore une fois, ce qui est le plus important dans ce type d'événement, c'est ce que vous en avez retiré. Et c'est ça qui est beau. Il y a des gens pour qui ça va être n'importe quoi et d'autres qui vont être au contraire confortés dans leur croyance, dans leur foi. Et c'est plutôt intéressant de voir comment tout le monde se positionne. Merci Hélène d'avoir été avec nous. On vous embrasse très fort, passez une très très belle soirée.
Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV.
La Libre Antenne, comme tous les lundis en direct sur tous les réseaux sociaux, c'est l'occasion pour vous de témoigner. Je sais que c'est difficile de témoigner quand on vit quelque chose de singulier qui nous amène aux frontières du mystère, de l'inexpliqué, mais vous pouvez le faire ici en toute quiétude. Regardez, Hélène, elle le fait, on ne la voit pas. Vous pouvez, on peut même changer votre nom si vous le souhaitez, parce qu'on on accepte totalement l'anonymat et le fait que vous ayez envie d'être totalement anonyme lors de votre témoignage. Mais souvent... parler, ça soulage. On sait, on en a vu plein, hein, des gens, Jocelyn, qui ont du mal à vivre parce qu'ils ont vécu quelque chose qu'ils n'ont pas pu évacuer. Et ben là, nous, on vous permet de le faire. Et sans vos témoignages, cette émission n'existe pas. On va faire un tour sur les réseaux, Valentin.
Oui, complètement, Bob. À ce propos, on a sur Twitch un viewer qui nous dit « Il y avait eu un reportage là-dessus ». Et puis, on a sur YouTube un abonné qui nous dit « Cette icône ne pouvait pas faire plus que de pleurer à travers une statue ». Et puis, on a un second abonné qui nous dit « Cette fois, j'ai déjà senti cette odeur de rose dans un funérarium à l'incinération de mon père à Orange ».
D'accord, ok. Bah, écoutez, moi, j'adorerais hein, voir ce genre de choses.
Ça doit être assez exceptionnel
à vivre. Hein. Je me souviens, j'avais adoré la série sur Arte avec cette vierge qui pleurait des litres et des litres de sang. C'était assez incroyable. On a vécu quelque chose... le 18 mars dernier d'exceptionnel. C'était le retour des sorties parisiennes de BTLV. On est parti à la découverte du Paris mystérieux avec Jacques Sirgent. Et il y a de nouvelles dates qui arrivent. Pour ceux qui ont loupé et qui ne savent pas ce que c'est, c'est ça le Paris mystérieux.
BTLV vous propose de découvrir le Paris mystérieux. Considéré comme la ville la plus hantée du monde, Paris cache des histoires à faire frissonner de plaisir. Des quartiers, des rues, des maisons renferment des secrets et des affaires que personne ne s'explique encore. Crimes horribles sous Louis XIV. Culte du diable et satanisme dans le Paris du XIXe siècle. Les coups bas de la police d'antan et les derniers sorciers jugés, condamnés et brûlés en France. À travers le vieux Paris et raconté par Jacques Sirgent, vivez une soirée au cœur du mystère et de l'inexpliqué avec BTLV. Infos et réservations sur btlv.fr ou via le lien dans le chat.
Et vous serez ravis d'apprendre qu'il y a de nouvelles dates, puisque bien sûr, avec Jacques, on s'est dit qu'on allait vous proposer d'autres visites. Le 8 avril, culte du diable et satanisme dans le Paris du 19e. Je crois que c'est complet, mais allez faire un tour quand même sur btlv.fr. Le 29 avril, les derniers sorciers brûlés à Paris. On reviendra le 13 mai pour ceux qui ont loupé la première sortie sur l'affaire des 26 corps décapités sous Louis XIV. J'ai adoré, parce que là, on est vraiment dans le cœur de Paris et Jacques est un conteur exceptionnel. Et puis, alors, visite au Père Lachaise. Le 21 mai, à 10h du matin jusqu'à 13h, les écrivains vampiriques du Père Lachaise, connus, pas connus, surnaturels, 3 heures de visite exceptionnelle. Rendez-vous sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat pour réserver, bien sûr. On est dans la libre antenne avec Nadia qui est avec nous. Bonsoir Nadia.
Oui, bonsoir. Bonsoir Bob, bonsoir tout le monde.
Comment allez-vous Nadia?
Bah, ça va.
Ouh là là, c'est un petit ça va ça. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout.
Je suis un peu stressée, mais je suis quand même bien contente de pouvoir témoigner. Non. Parce que
mais vous ne pouvez pas être stressée avec moi. Nadia, avec moi, vous ne pouvez pas être stressée. Je suis l'homme le plus gentil du monde. Je vous accueille, je vous prends sous mon aile et on discute. On est en famille, tout va bien. Il n'y a personne qui nous écoute. Donc, c'est le bonheur, Nadia. Bon, vous êtes où en France? Ou à l'étranger d'ailleurs, je ne sais pas.
J'habite en Franche-Comté, à côté de Besançon.
Ah oui, c'est un peu l'étranger quand même, Franche-Comté, le Besançon. Je dis... c'est loin, c'est le pays de la concoyotte. Voilà, donc voilà.
Ouais,
donc,
oui,
voilà.
C'est pas mal ça.
Je connais un peu parce que ma belle-sœur est byzantine, alors je la chambre à chaque fois un petit peu. Ah, donc puis alors, il y a Noémie, vous savez, qui est du Jura, qui n'est pas très très loin, qui est au Standard.
Ah, bah,
donc
oui,
là-bas,
oui.
C'est le pays des ours, avec des baleines et tout, il y a des trucs, on ne sait pas. Donc voilà, c'est fou. Puis il fait froid, il y a encore de la neige, là. Il y a au moins 6 mètres de neige là-bas.
Non. Non, on a du beau soleil et tout.
Bon, bah écoutez, profitez-en bien. Nadia, vous avez vu une soucoupe volante, vous, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, bon, bah, ça s'est passé à Bordeaux, il y a à peu près 4 ans.
Ouais.
C'était, je pense, début 2018, à peu près. Alors, j'étais en voiture avec ma fille et on rentrait sur Bordeaux. On avait été au bassin d'Arcachon. On rentrait sur Bordeaux. On passait pas loin de l'aéroport de Mérignac.
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà. Et donc, ma fille conduisait. Moi, je regardais. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Comment, sens giratoire. Donc, on s'arrêtait. On redémarrait. On s'arrêtait. Vous voyez bien, quoi.
C'est les ronds-points. La spécificité française, madame. Les ronds-points.
Voilà. Et donc, à un moment, elle était arrêtée. Et moi, je regarde sur la droite. Et je vois un truc arriver, mais à une vitesse, mais dingue, qui arrive sur ma droite. Et j'ai cru vraiment que j'allais me le prendre en pleine tronche, parce que ça arrive à une vitesse. Et ça s'est arrêté, pile poil, je dirais, mais à moins d'un mètre, en fait, de la voiture.
Ah oui.
C'était à peine en hauteur. Et bon, ben, j'ai eu le temps, ça s'est arrêté, mais avec la vitesse où ça arrivait. Et le temps que ça a mis à freiner, c'était super impressionnant. D'ailleurs, donc, quand il s'est arrêté à côté de la voiture, ben là, j'ai vu que c'était une soucoupe volante. Alors, comment vous dire, ça faisait plus comme un chapeau, si vous voulez. Et moi, quand elle s'est arrêtée, comme elle a freiné, je l'ai vu du dessous, quoi. Je l'ai vu par-dessous.
Alors, c'est assez marrant ce que vous dites, parce que ça me rappelle une histoire qu'on a racontée ensemble, je crois, sur un ovni, un conducteur qui a percuté un ovni. C'est ensemble qu'on a fait un dossier inexpliqué.
Oui.
C'est avec toi.
Mais c'est avec le policier, là.
Oui, le policier. Donc, et là, c'est fait, parce que là, si vous me dites qu'une soucoupe volante s'est arrêtée à un mètre de la voiture, ça a été presque la collision, quoi.
Mais après, vous allez voir, les distances, c'est un petit peu. Les distances sont un petit peu floues, parce que vraiment.
Vous l'avez vu du dessous, donc, cette soucoupe, c'est
moi,
ça?
Moi, je l'ai vu du dessous, oui. C'était comme vraiment une soucoupe, mais c'était comme une soucoupe de dessin animé. C'est ça qui m'a choquée. C'est pour ça que, par le fait, j'ai pas voulu y croire, quoi. Je sais pas comment vous...
Ça veut dire que, comment ça, en dessin animé, c'est que vous aviez la sensation qu'elle n'était pas réelle, que c'était holographique, c'était quelque...
Ben, c'est ça, elle était réelle. Elle était vraiment comme un dessin animé, quoi. En fait, il y avait un peu de lumière au milieu. Et tout autour, il y avait des losanges.
Ouais.
Qui étaient, bon, c'était des lumières aussi, mais si vous voulez, ça n'éclairait pas parce que c'était comme en plein jour.
D'accord.
On était en pleine nuit.
Mais alors, attendez, vous êtes en pleine nuit, vous n'êtes pas la seule voiture, j'imagine, sur la route quand même. Donc, il y a d'autres gens qui l'ont vu, ça.
Surtout vers l'aéroport.
Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire parce que franchement, heureusement, ma fille l'a vu. En fait, moi, quand je l'ai vu arriver et que j'ai cru vraiment que j'allais me la prendre dans la figure,
ouais.
J'ai fait un mouvement en arrière. Et là, ma fille a tourné la tête. Et pareil, elle a eu le temps de le voir. Mais elle ne l'a pas vu arriver, quoi. Elle l'a vu vraiment à côté de la voiture.
Ouais.
Mais ça a duré vraiment... pour elle, elle a peut-être vu, je ne sais pas, une demi-seconde, quoi. Je sais pas comment...
Ça a été furtif, en fait. Là, pour le coup, ça a été bref.
C'était très furtif.
D'accord.
Et quand elle l'a vu, elle me dit, mais c'est quoi, ça? Je dis, écoute, je sais pas, j'étais scotchée, quoi. Elle me dit, ça devait être un drone. Je dis, oui, c'est ça, c'est sûrement un drone. Mais c'est pas comment vous dire, moi j'étais un peu obsédée par le truc. On n'a pas reparlé après.
C'était quand
c'était... Mais, alors après, il faut que je vous explique aussi, en fait, tout ce qui m'a semblé vraiment les anomalies, les anomalies de l'expérience, quoi. Alors, en fait, déjà, je l'ai vu arriver, ça venait pas du ciel. Ça venait presque de l'horizon. Je peux pas vous dire à peu près la distance, mais c'était peut-être entre 200 et 500 mètres, je sais pas.
Donc, c'était à la hauteur de vos yeux, pas que c'était pas... C'était à la hauteur de vos
yeux. C'était à la hauteur de mes yeux.
OK.
Ça commençait à apparaître en même temps, comme si ça sortait d'un nuage, si vous voulez, mais ça apparaît en même temps que le nuage.
D'accord.
Et c'était un nuage un peu gris. Mais moi, c'était vraiment... Nous, on était dans la nuit, quoi. Et quand c'est arrivé, déjà, comment vous dire, déjà les distances, si on avait été sur le même plan, si vous voulez, si on avait été sur le même plan, ça aurait duré un dixième de seconde, et puis, pam, je sais pas, ça aurait duré un dixième de seconde. Mais moi, j'ai eu le temps quand même de la voir arriver, et de la voir s'arrêter. Je sais pas comment vous dire.
Oui, vous
pour
avez.
Moi, c'était clair que vous n'étiez pas.
Alors, est-ce
pas de la même dimension.
Dites-moi, Nadia,
pour moi,
c'est
quand. Clair que ça venait d'une autre dimension.
Alors, ça vient peut-être d'une autre dimension, parce que c'est vrai que ce sont des hypothèses hein, de chercheurs. Mais ce qui est, vous me dites que c'est arrivé très vite, mais vous avez eu le temps de la voir arriver quand même. C'est cette
oui, voilà.
Mais est-ce que voilà, vous aviez la sensation, vous, qu'il y a quelque chose qui était suspendu autour de vous, comme si vous étiez rentré dans une bulle assez singulière? Parce que des témoins disent ça, comme si le temps s'est arrêté, qu'il y avait cette relation entre vous et, ben, et cet objet.
Peut-être un peu, je ne sais pas trop, mais si vous voulez, à ce moment-là, j'étais tellement... J'étais tellement dans ce truc-là, quoi, que je sais pas. Et d'ailleurs, j'ai même pas souvenir d'avoir regardé après derrière si je la voyais.
Et alors, elle est repartie comment cette soucoupe ?
Eh ben alors, donc elle s'est arrêtée au niveau. Nous, on a avancé.
Ouais.
On a avancé, puis elle est repartie dans l'autre sens.
D'accord. Ok. Ça a duré.
Pour moi, c'était tellement gros qu'on n'en a pas reparlé avec ma fille. Parce que franchement, pour moi, c'était tellement gros, je n'ai pas voulu y croire. J'essayais de trouver des explications. Je disais, oui, peut-être un drone. Mais c'est vrai qu'au bout de deux ans, j'ai ma fille, mais au fait.
Non, mais les drones, ça ne va pas à la vitesse de la lumière, parce que vu la vitesse à laquelle vous me dites que l'engin s'est déplacé, s'il est à l'horizon, voilà, tout d'un coup il est là, c'est que ça va très très vite. Et un drone, ça va, passer,
oui,
ça va vite, mais quand même.
Je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à y croire, je ne réalisais pas, quoi, en fait.
Et donc,
au moins 2-3 ans pour vraiment réaliser, en fait, ce que j'ai vu, quoi.
Parce que là, il a failli y avoir collision. Donc, mais quand l'engin est arrivé à 1 mètre de la voiture, vous aviez la sensation que vous étiez observé, que l'engin s'était arrêté volontairement pour vous ?
Non, mais j'avais l'impression que c'était un accident, quoi, si vous voulez. C'était pas voulu. Oui, qu'elle a failli me rentrer dedans. Oui, que c'était pas voulu, quoi.
D'accord. Et alors, la route sur laquelle vous étiez, c'était quoi ? Une départementale, une nationale, une autoroute, c'était quoi ?
Je pense une nationale.
D'accord. Et vous étiez, vous ne vous souvenez pas s'il y avait des voitures devant ou derrière, en fait, c'est ça ?
Bah, derrière, je sais pas. Devant, sûrement, oui. Enfin, oui, parce qu'on était arrêté, oui, sûrement. D'accord. Mais je sais pas. J'ai vraiment pas fait.
Donc c'est quand vous êtes sur le rond-point finalement que cet engin arrive, en fait, c'est ça ?
Juste avant le rond-point, en fait.
C'est étonnant parce qu'effectivement, et vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas voulu sortir.
Bah, c'est-à-dire qu'on était en train de rouler, quoi, si vous voulez.
Je mets un coup de patin, je vois ce truc-là, je descends, je regarde.
On roulait tellement doucement, on roulait vraiment doucement, quoi. Ma fille, elle démarrait, quoi, si vous voulez.
D'accord.
Okay. Et l'objet en question, il était grand comment ? Si on cherchait un point de comparaison.
Alors justement.
Comme votre voiture, plus gros ?
Voilà, moi je vois à peu près la voiture. Mais en même temps, là, à la distance où il était, donc à moins d'un mètre, je le voyais entièrement dans la vitre. Alors je me dis, moins d'un mètre.
Il ne devait pas être très gros, hein, parce que quand même.
Si je le voyais entièrement dans la vitre, peut-être ça faisait 30 cm, quoi.
Ouais, un peu plus peut-être,
vraiment,
parce que s'il était à un mètre.
Non, mais je vous assure, c'était. Mais par contre, moi, pour moi, je suis sûre que c'était aussi gros que la voiture.
D'accord.
Je ne sais pas comment vous dire. Les distances, pour moi, c'est évident qu'on n'était pas dans la même dimension.
Est-ce que vous avez senti, parce que quand il y a un objet ou quelque chose de physique à côté de vous, vous sentez quelque chose, une voiture, quand vous êtes arrêté, qu'il y a une voiture à côté, il y a une vibration, vous la sentez. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose de physique à côté de vous ? Ou est-ce que peut-être que vous avez vu quelque chose qui n'était pas physique, d'une autre dimension ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Ben, pour moi, c'était physique,
mais
pour moi, on n'était pas sur le même plan. C'est comme si, c'était comme s'il venait d'une autre dimension qui s'est imbriquée dans la nôtre, ou alors qu'on s'est vraiment frôlé, parce que c'était, faut vraiment le vivre, quoi. C'était les notions de distance et de temps qui n'étaient pas les mêmes pour moi, quoi. Si vous voulez, c'était pas les mêmes distances et pas le même temps. Pour moi, c'est évident.
Alors, on est en 2018 et aujourd'hui, on est en 2022. Qu'est-ce que ça a changé en vous, Nadia ? Allongez-vous et parlez-moi. C'est 50 € la séance, vous allez voir.
Eh ben, écoutez, moi, je croyais pas aux univers parallèles, mais là pour moi, il n'y a plus de doute, quoi. Pour moi, c'est un univers parallèle. On a été frôlés par un univers parallèle, quoi. Pour moi, j'ai pas de doute.
Alors, ce qui est génial, c'est dans ce que vous me dites là, c'est que c'est David Vincent, quoi. C'est-à-dire que je vois quelque chose. Non, mais c'est vrai. C'est que
c'est marrant parce que depuis le début, j'ai l'image de la soucoupe qui descend.
Mais oui, exactement. Tu vois, donc
même si elle est arrivée là de l'horizon, elle descendait pas.
Et cette image, je pense que vous êtes foutus, Nadia. C'est fini. Maintenant, vous savez qu'ils sont là, qu'ils existent. Il y a quelque chose qui s'est passé.
Alors moi, pour moi, il n'y a pas aucun doute.
Ouais, c'est ça.
Pour moi, c'était une autre dimension. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ouais. Après, c'est mon ressenti. Hein. C'est vrai que. Mais moi, vraiment, j'ai plus aucun doute. Et je me dis, si on a, je ne sais pas combien on a d'univers parallèles comme ça, mais si on peut s'imbriquer les uns dans les autres, qu'est-ce qui peut venir chez nous, quoi ? Ouais. Ça fait peur aussi.
Ah non, mais effectivement, je déjeunais avec un ami aujourd'hui québécois qui était à Paris, qui me disait exactement la même chose. Il dit, je pense que, parce que moi, on m'entend souvent dire que je suis assez attiré par la thèse du multivers, de la multidimensionnalité, des éléments temporelles qui peuvent se croiser, etc. J'aime bien cette idée, presque plus que... Vous savez que, je crois que c'est toi, Jocelyn, qui a posté quelque chose ce week-end. À la vitesse de la lumière, on met 46 millions d'années pour aller au sortir de notre galaxie, je crois, quelque chose comme ça.
Milliards,
t'imagines. Donc vous imaginez...
4,6
milliards d'années pour sortir de notre galaxie.
Non, c'est pas pour sortir de la galaxie, c'est pour atteindre le point de l'univers
le plus loin. Mais 4,6 milliards d'années à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'on est un escargot. Donc ça veut dire que pour que des gens viennent nous voir, soit ils font des trous de verre, effectivement, ils courbent l'espace, le temps, et c'est possible, hein, puisque des chercheurs, même en physique...
théoriquement, l'utilise. Oui.
Et voilà, c'est fou. C'est vrai que le multivers ou la multidimensionnalité, ça permet peut-être d'avoir de temps en temps ces lignes temporelles ou de dimensions qui se croisent et vous voyez quelque chose qui sont. Alors, on a presque la sensation. Ah, oui. Par contre, quand on voit ces engins, que eux savent, vous voyez, passer dans une autre dimension, alors que nous, on le sait pas. Vous voyez, comme s'ils venaient nous voir et qu'ils repartaient assez rapidement.
Ils jettent un coup d'œil, voici, tout se passe bien et ils repartent.
Exactement.
Peut-être
donc,
que c'est ça.
Oui.
C'est peut-être ça. Bah, écoutez, en tout cas, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que votre fille l'a vu. Ça, c'est parce que...
Oui,
ma fille l'a vu, oui, heureusement. Parce que.
Ah ben, on peut être pris pour...
Elle l'a pas vu arriver, mais elle l'a vu, aussi.
Bon, bah, écoutez, vous avez réussi à en parler, au fait, autour de vous, de cette chose-là?
Oui, j'en parle surtout depuis quelques mois que j'ai vraiment réalisé ce que j'ai vu, quoi.
Vous avez vu quelque chose d'exceptionnel, donc voilà. Oui. Parce que souvent les gens voient des points dans le ciel, etc. Mais quand c'est aussi gros que ça, on a plein de dossiers inexpliqués qu'on a déjà évoqués, Socorro ou l'affaire de ce policier là, où là il y a vraiment des gros engins, quoi, que les gens voient. Oui. Là, on est vraiment dans le David Vincent,
quoi.
Donc il se passe quelque chose.
J'ai vraiment cru que j'allais me prendre dans la figure. Quoi.
Et en plus, ça aurait pu être dangereux parce que vous auriez pu mettre un coup de volant, partir en embardée, etc. Donc
il y avait la famille Knowles aussi en Australie.
Oui, exactement. Donc, écoutez, en tout cas, Nadia, mille merci de nous avoir raconté cette histoire. Donc, alors, vous me rappelez, c'était du côté de Bordeaux, du côté de Mérignac, en fait, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ok. 2018, du côté de Mérignac, si je ne m'abuse. Donc, vous vous rappelez de la saison, parce que bassin d'Arcachon au printemps, d'Arcachon.
C'était, je pense, mars-avril. Hein,
voilà, donc début du printemps. Vous avez raison d'aller sur le bassin, c'est magnifique en cette saison. Et dans tous les cas, si vous étiez de ce côté-là, encore une fois, appel à témoins, c'est toujours intéressant de voir si d'autres ont vu la même chose. Donc 2018, du côté de Mérignac, entre le bassin d'Arcachon et Mérignac, il y a cette grande nationale monstrueuse qui va d'Arcachon jusqu'à Bordeaux, là, avec plein de ronds-points, c'est celle-ci.
Et il y a plein de ronds-points.
Bien sûr. Donc si vous avez vu ça, 01 86 22 21 20, ou alors redaction@btlv.fr. Merci Nadia, on vous embrasse, prenez soin de vous. Ah non, il n'y a pas de jingle, là c'est moi. Non mais tu as raison. Non mais là, il a raison le monsieur, le jeune homme à la régie. C'est moi qui pensais qu'il y avait un jingle. Et tout à l'heure, en plus, quand on a préparé l'émission, je t'ai dit, non mais pas, je m'en accommoderai monsieur. Vous inquiétez pas, c'est bon, je me suis accommodé de votre petit problème. Puisque vous n'aviez pas mis le jingle dans la bécane. Alors, je vais parler avec Valentin. Mon ami Valentin, alors qu'est-ce qui se passe-t-il donc?
Eh bien alors, sur Facebook.
Donc. Dites-moi, racontez-moi.
Alors on a David qui nous dit, j'ai vu une boule bleue passait devant moi.
Et Vincent est là, alors. David Vincent.
Comme une flamme vivante. Et puis, on a sur Twitch...
Redis-moi ce que tu as vu. Ce qu'il a vu.
Comme une flamme...
Non, mais du
début. Ah, pardon. J'ai vu une boule bleue passer devant moi au deuxième étage comme une flamme vivante.
Feu follet. Ça rappelle feu follet.
Oui,
un truc comme ça qui bouge un peu. Ouais, ou alors lanterne taille.
Bleu.
Bah, avec du gaz. Tu vois. Non, non, c'est, je plaisante, mais non, à la hauteur de, au deuxième étage, c'est ça?
Au deuxième étage.
Les feux follets, c'est surtout dans la campagne.
Ouais, bien sûr, puis surtout à côté des cimetières, des choses comme ça, dès qu'il y a des émanations de gaz.
À moins qu'il y ait un cimetière en bas de chez lui.
Ouais, peut-être.
Bon, il ne l'a pas précisé, mais en tout cas, on a sur Twitch un autre abonné qui nous dit « Perso, j'ai vu une lumière blanche, mais pas de soucoupe. Non, c'était pas un lampadaire, ni le soleil.
» Parce que moi, je vous ai déjà raconté, hein. Bourré, j'ai vu un lampadaire. J'étais dans un transat, j'étais persuadé que la lune était devant moi, elle était venue un mètre de moi. J'ai appelé tout le monde. Ils s'en foutaient de ma gueule pendant des lustres. Je voyais, en plus, il était sale un peu. Tu sais, t'avais l'impression que c'était les cratères. Je suis là, la lune, elle est là. J'étais parti. Bon, j'avais dû un peu fumer aussi des choses qui n'étaient pas de la cigarette. Mesdames et messieurs, il y a une très belle émission avec Jean-Patrick Portal. On a fait une collection et il revient sur l'Arche d'Alliance. Je sais que c'est une émission qui a cartonné et que certains n'ont peut-être pas vu. Je sais que Thomas, notre scout, lui l'a vu et il a adoré regarder.
Moïse va monter au sommet du mont Sinaï pour pouvoir discuter entre guillemets avec Dieu. Et Dieu, là, va lui donc lui délivrer les 10 commandements, les fameux 10 commandements. Et donc, il va rester plusieurs jours là-haut, le temps d'attendre de discuter, d'échanger avec Dieu et que Dieu grave sur la pierre, ces fameux 10 commandements. Ces tables de la loi sont mises dans l'Arche d'Alliance. Et l'Arche d'Alliance, elle va toujours précéder, les 3 jours, la masse qui est en train d'arriver. Et pourquoi ? Parce qu'elle a une telle puissance qu'elle détruit l'ensemble des ennemis qui se présentent devant elle.
Ah oui, d'accord, mais elle est quand même portée par des prêtres.
Par 4 lévites.
Ouais.
Les fameux prêtres, les 4 lévites. Et il n'y a que les lévites qui peuvent prendre et s'approcher de l'Arche d'Alliance. Tous ceux qui ne sont pas lévites, même dans les Hébreux, sont tués par l'Arche d'Alliance. Ouais. Seul un prêtre aura le droit d'aller une fois par an, au moment de Kippour, pour pouvoir s'approcher de l'Arche et même prononcer le nom de Dieu. Mmh. Il n'y a que lui. On sent que c'est quelque chose d'extrêmement craint, l'Arche d'Alliance.
On dit qu'elle serait dans une petite église, en plus, oui. L'Arche d'Alliance, aujourd'hui.
Sainte Marie de Sion, qui se trouve en Éthiopie. Pour certains, l'Arche d'Alliance serait dans cette église.
Et encore une fois, gardée par un seul gardien. Mmh. Personne s'y en approche, quoi. Parce qu'on dit que si on s'y approche, on devient aveugle, on peut mourir.
Je suis fasciné par ce type d'émission, tout comme les dossiers inexpliqués. Toutes ces histoires qui nous emmènent aux frontières, on ne sait pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Il y a de la légende, il y a du mystique, mais on sait que dans toute légende, il y a toujours une part de vérité. Le fait qu'elle soit peut-être dans cette église en Éthiopie, enfin, sachant qu'en Éthiopie, il s'est passé beaucoup de choses aussi.
L'histoire est incroyable.
Incroyable.
Et on se dit, si c'est vrai, c'est encore plus incroyable.
Ouais, c'est absolument dingue. Et effectivement, dans cette église en Éthiopie, il n'y a qu'un seul gardien. Personne ne peut y aller.
L'Arche d'Alliance, on l'a vu un peu partout. Hein. Ouais. À Jérusalem, en Éthiopie, on l'a même vu à côté de Rennes-le-Château. Enfin,
ah ouais.
Allez, voilà.
Mais on ne sait pas où elle est.
Mais personne n'a mis la main dessus.
Exact.
Elle serait peut-être même dans les caves du Vatican aussi.
Pourquoi pas ? Donc, de toute façon, on ne sait pas. J'aimerais bien, tu sais qu'alors là, la bibliothèque du Vatican est...
Ah bah,
alors, à propos de bibliothèque du Vatican, j'ai reçu Mauro Biglino. L'émission sera en ligne dans 15 jours, je crois, traducteur de 17 Anciens Testaments pour le compte des éditions San Paolo, des éditions du Vatican. Il en est revenu bouleversé et il s'est fait virer tant il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû raconter concernant les fameuses machines volantes, les Elohim, etc. Et l'absence du Dieu unique, dans tous les cas, sans blasphémer. C'est juste, lui, il a pris les textes, il les a traduits. C'est un linguiste, hein, donc voilà. Et on parle dans cette émission, il prend des versets, des écrits en hébreu, il explique ce que c'est. Enfin, c'est juste démentiel. Ce sera bien sûr réservé aux abonnés. Voilà pourquoi il faut s'abonner à BTLU, voilà. Valentin, on finit ? C'était bien,
oui,
ou pas ?
C'était très bien, beaucoup de réactions.
Ça va, tu as un petit thé, des gâteaux, des trucs, non ?
Ça va, ça va.
Bon, on a été ravis de vous accueillir. On arrive au terme de cette émission, je vais vous donner rendez-vous mercredi. Regardez ce qui vous attend, EMI. Une transformation avec un point d'interrogation, bien évidemment. On aura le docteur Jean-Pierre Jourdan qui sera avec nous, qui lui étudie ces phénomènes depuis 40 ans. On aura Christian Faure qui a écrit 2 bouquins sur ses expériences de mort imminente. Et puis Francis Fernandez qui sera ici sur le plateau, qui est une expérienceuse et qui nous racontera en quoi ça a changé sa vie, en quoi ça l'a transformé. Merci Jocelyn, on rappelle que Zone Paranormale est toujours à votre disposition. Merci à Thomas, bravo d'avoir réalisé cette émission. Il y a 15 jours, il ne savait pas manipuler, hein, je peux vous le dire. faut le dire. Donc voilà, bravo, t'es doué. Merci à Noémie d'avoir été au standard, beaucoup moins doué. Alors là, je veux dire, Noémie, bravo. Hein, alors là, bravo, hein, super. Je plaisante bien évidemment. Merci à Valentin, ça a été. Merci.
Très très bien.
Gâteau, non? Ah, pas.
Non, ça va, ça va. Ça va pas tarder.
Un petit thé, non? Non. Allez, bonne soirée à vous. Partagez cette émission, salut.